RCF.
Père Gabriel Kairala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jésuite.
Oui.
Franco-libanais.
Oui.
Vous vivez à Beyrouth et vous nous accueillez ici dans l'église ou à côté de l'église Saint-Joseph dont vous êtes le curé. Cette église n'est pas à proprement parler une paroisse dans Beyrouth, mais c'est un lieu important pour les catholiques latins.
Tout à fait. Et même les catholiques maronites ou grecs catholiques aussi. Parce qu'on a la liturgie souvent en français, donc pour les gens de culture francophone. Et puis elle est importante pour le personnel asiatique qui travaille dans les maisons. Donc c'est le dimanche, c'est une journée pour eux. Ils peuvent venir un peu, voilà, se ressourcer et passer un temps ensemble de convivialité et de prière et d'autres activités ensemble. C'est des Philippines, des Sri Lankaises, des Éthiopiennes.
Alors Père Gabriel, vous allez nous accompagner tout au long de ces rendez-vous haltes spirituelles dans la compréhension du mystère de Noël et de la nativité. D'abord, j'aimerais savoir quelle place cette fête de Noël tient dans la vie liturgique au Liban et dans la vie tout court. Est-ce que c'est un moment important de l'année?
Oui, bien sûr. Alors, dans la vie liturgique, c'est un peu comme en France. Il y a toute une liturgie de l'Avent qui se met en place de l'Avent dans le rite syriaque, donc pour l'église maronite, dans le rite catholique, pour les églises grecques catholiques, et puis pour nous. Et bien sûr, chez nos frères orthodoxes, c'est pareil, ou nos frères arméniens, syriaques. Vous savez, on a 18 communautés religieuses au Liban. Donc il y a toute une liturgie du temps de l'Avent qui se met en place avec une préparation de Noël. Oui, tout à fait, c'est une fête très importante. Et même, j'ai remarqué, nos frères musulmans...
Alors, j'allais vous demander.
Ouais. Voilà, même eux, ils le vivent avec nous. Il n'est pas rare de voir dans les régions musulmanes des sapins de Noël. Dans certaines maisons, dans certains appartes musulmans, on peut voir aussi des sapins de Noël. Et puis, le jour de la fête, nos amis musulmans nous appellent pour nous souhaiter bonne fête. Ils nous visitent en temps normal. Maintenant, on est en temps de crise. Mais en temps normal, on se visiter mutuellement. On partage souvent des repas de Noël ensemble, ça peut arriver. Oui,
concrètement, comment ça se fête Noël au Liban? C'est des traditions semblables à celles qu'on connaît en France?
Oui, tout à fait.
Avec les mêmes symboles?
Tout à fait, tout à fait. La messe de minuit avec le repas de minuit en famille et puis bien sûr le repas du 25 avec la messe du 25, ça c'est... Oui, tout à fait, c'est un peu comme en France, sauf que chacun va dans, entre guillemets, son église, c'est-à-dire dans son rite, mais on a les messes, on a maintenu les messes de Noël. Nous, par exemple, on a une messe à minuit et on a eu des messes le second jour. Bon, depuis 2 ans avec le Covid, avec les crises que connaît le pays, on décale un peu, mais je parle en temps normal.
Et en termes gastronomiques, il y a des choses particulières qui sont cuisinées pour fêter Noël?
Alors, on a copié aux Américains la fameuse turkey, donc la dinde, c'est une dinde, cette fameuse dinde, oui, tout à fait, qu'on a copié aux Américains. Sinon, ça peut être des spécialités libanaises. Mais ceci dit, bon, tout ça, c'est en temps normal. Mais depuis 2 ans, la donne a changé. Depuis la crise, les donnes. Et puis, bien sûr, on a les chocolats de Noël, les liqueurs qu'on offre aussi à Noël, des liqueurs, la fameuse bûche de Noël que tout le monde attend. Ah oui, bien sûr. Là, les bûches de Noël, les chocolats de Noël, oui, tout à fait.
Et puis, certainement des fruits aussi, parce que le Liban est un pays avec des fruits qui, pour nous, sont exotiques, mais qui, ici, sont des fruits locaux, non?
Pas particulièrement à Noël. C'est-à-dire, les fruits, c'est tout le temps.
Ouais,
c'est
d'accord.
Tout le temps. Mais à Noël, ce qui est particulier, c'est les bûches, c'est un petit peu les fruits secs, c'est les gens qui ont surtout vécu en Occident. Et surtout les fameuses liqueurs, le chocolat. Alors là, les chocolats de Noël, c'est quelque chose. On attend ça impatiemment.
Alors après ces considérations, disons, très pratiques et gastronomiques, on va entrer dans le vif du sujet avec vous parce que Noël, on en sait ce que nous en disent les textes. Est-ce que d'abord cette incarnation de Jésus, d'une manière ou d'une autre, est annoncée dans les textes du Premier Testament?
Alors tout dépend des lectures qu'on fait. Par exemple, une personne juive, elle va vous dire non. Pour nous chrétiens, bien sûr, la fameuse phrase « un enfant nous est né » de Isaïe, c'est parlant pour nous, c'est-à-dire pour nous autres chrétiens. Tous les textes du Premier Testament sont en acheminement vers cette incarnation de Dieu et cette alliance. Alors au temps du Premier Testament, l'alliance, elle passe par les prophètes, elle passait par des commandements du temps de l'Exode. Autant elle culmine pour nous avec le temps de Noël par cette incarnation où Dieu, il ne fait plus alliance avec l'humanité, mais il se donne lui-même. Il ne donne plus une alliance aux humains, mais il se donne lui-même en son Fils Jésus-Christ, bien
Alors,
sûr.
Cette première alliance, elle reposait sur quoi et quel était son sens?
La première alliance, c'est avant une question d'un peuple élu, bien entendu, c'est le peuple d'Israël qui est élu, et c'est une alliance de salut. C'est une alliance entre un Dieu unique et un peuple qui a été sorti de l'esclavage pour l'amener vers une terre de liberté. Donc c'est une alliance qui se met pour le salut d'un peuple et surtout son passage avec tout le côté rituel à travers la mer morte, à travers le désert, de tout un esclavage au sens propre et figuré du terme, bien entendu, vers cette terre de liberté, vers un peuple qui arrive petit à petit à acquérir une identité propre, à dire « je suis face à ce Dieu qui est et qui devient ».
Et ça, ça nous révèle un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple.
Tout à fait, tout à fait. C'est la fidélité.
Contrairement au peuple, hein, qui lui a tendance à oublier Dieu très, très, très souvent.
Et comme ils se disent, c'est le peuple à la nuque raide, encore un peu, ils vont me lyncher. Alors on voit de temps en temps Dieu qui s'enflamme, puis il se calme. Mais il y a une constante, c'est la fidélité de Dieu. Ça, c'est une constante.
Si on en vient aux évangiles, là, il est de manière très claire, très explicite, question de la naissance d'un enfant qui est le Fils de Dieu. Sur quel texte peut-on s'appuyer pour relater cet événement?
C'est les évangiles de Luc, qui sont des évangiles joyeux, qui commencent bien sûr par l'annonce faite à Zacharie, l'annonce faite à Marie, la visitation de Marie, qui est un enfant magnifique dans le Nouveau Testament, dans Luc. Et puis Luc 2, la naissance.
Donc c'est le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Essentiellement, Saint-Luc nous raconte cet événement qu'on peut dater. Donc, c'est un événement historique.
Les historiens parlent d'un Jésus de Nazareth. Entre autres, on sait par Flavius Joseph qu'il y a eu un Jésus de Nazareth qui a été à un moment crucifié. Après, la foi nous dit, ce Jésus de Nazareth, c'est le Christ. Donc, je suis pas historien moi-même, j'ai fait un peu des études d'histoire. On sait qu'un Jésus de Nazareth a existé et puis... Notre foi, notre cheminement de foi nous dit que ce Jésus de Nazareth est le Christ, donc Dieu fait homme pour sauver l'humanité.
Donc c'est un événement, encore une fois, qui est indiqué dans les frises chronologiques.
Tout à fait.
Il y a un avant et un après.
Tout à fait, avec l'éruption de Dieu dans l'humanité, tout à fait. Cette éruption où lui-même se donne à l'humanité.
Alors on reviendra sur cette notion de don, mais les textes, alors il y a des textes qu'on dit apocryphes également, qui nous donnent des détails, qui ont, contribué à faire naître tout un imaginaire aussi autour de Noël. Est-ce que c'est important et nécessaire d'essayer de faire la part des choses entre ce qui relève à proprement dit de la foi et ce qui peut être considéré comme des détails, disons, l'âne, le bœuf, tout ça, on sait que bon, voilà, ça vient flatter un peu notre imaginaire.
On est des êtres incarnés, des êtres de chair, de sang, des êtres d'imaginaire. Donc tous, à commencer par moi-même, on en a besoin des contes, on a besoin d'histoires. Parce qu'un texte aussi, ça crée une identité, ça peut créer une communauté, un texte. Donc on en a besoin. Et puis après, tout le travail d'une intelligence de la foi, c'est comment passer de ces textes-là à justement une foi, je dirais pas adulte, disons une foi qui se base sur des textes, mais pour partir ailleurs et pour partir dans une relation personnelle avec Dieu. Mais le texte, ça peut être un point de départ, un coup d'envoi, si vous voulez. Mais après, c'est la foi qui intervient pour cette relation personnelle de ce Dieu qu'on confesse, le Dieu de Jésus-Christ, et qui donnera sens à ma vie et qui donne sens à la vie de celui qui chemine avec lui et qui fait route avec lui.
Alors, Père Gabriel, si vous deviez là raconter à quelqu'un ce qui se passe autour de cette nativité, cet événement, qu'est-ce que vous raconteriez?
C'est-à-dire, je raconterais l'amour qui se donne. C'est-à-dire un Dieu amour qui aime tellement l'humanité qu'il s'est donné à elle-même sous la forme la plus vulnérable, celle d'un enfant.
C'est l'histoire d'un couple?
L'histoire d'un couple, et puis qui met au monde un enfant, donc le Fils de Dieu. Et puis l'enfant, c'est très important, parce que l'enfant, il a un côté vulnérable dans l'enfant. Donc l'enfant, il a besoin d'un père, il a besoin d'une mère, il a besoin d'être pris en charge. Et puis l'enfant est une promesse. Ça, c'était la lecture de Hannah Arendt qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. On sait qu'un enfant, c'est une promesse. Et c'est une promesse d'avenir. Donc d'ailleurs, quand on décide, souvent, un infanticide... c'est tuer l'avenir. Alors que là, c'est l'enfant, c'est une promesse d'avenir. Donc c'est la question d'une promesse est la question d'un Dieu qui est vulnérable aussi, oui. qui a besoin de l'homme quelque part, qui se donne à lui-même et qui va faire chemin avec lui, un Dieu qui va s'aventurer dans l'humanité, qui va vivre la vie de l'humanité, la vie des hommes et des femmes de tous les jours.
Donc la tradition nous dit qu'il naît à Bethléem,
c'est ça.
dans une mangeoire.
Oui, tout à fait.
Enfin, on reviendra aussi bien sûr sur cette dimension de pauvreté et de rejet, de marge. Et des bergers, donc des personnages là encore très bas dans la société, sont parmi les premiers à être informés de cet événement.
Tout à fait. C'est-à-dire le mangeoire, c'est parce qu'il n'y a personne pour l'accueillir, il n'y a plus place pour l'accueillir. Donc la question, on peut la, entre guillemets, spiritualiser, est-ce que moi, oui ou non, je l'accueille ? Quelle place je fais ? Comment j'accueille cet enfant ? Comment j'accueille cette famille vulnérable ? Autrement dit, comment j'accueille le pauvre, l'enfant, l'orphelin, la veuve, l'orphelin, une dimension aussi un peu sociale qui est derrière. La mangeoire, c'est un peu, c'est des sortes de nos caravansérails. C'est-à-dire, il est né là où personne ne veut y être. Il est parti là où on ne pouvait pas l'accueillir. Cette famille n'avait pas d'autre choix que d'aller dans cette mangeoire. C'est-à-dire, c'est une ironie quelque part, où l'enfant, le fils de Dieu, le roi des rois, le descendant de David, il y a une opposition avec la royauté de David, une ressemblance à David. Tous les deux sont de basses conditions sociales. Vous savez, David était berger et c'était le fils de Jessé. Quand le prophète est venu, il a dit à son père Jessé, écoute, personne n'est élu de Dieu. Il dit, oui, j'ai encore un petit rouquin qui est en train là de paître. Il dit, écoute, envoyez-le. Dès qu'on va ce petit rouquin, c'est lui. Et Jésus, pareil, c'est la basse condition sociale.
Le
rejeton, celui dont on ne veut pas. Et celui qui va, le trône, c'est un mangeoire. Il y a une ironie, une image un peu ironique là-dedans. Un renversement des chaînes de valeur.
On vous retrouve demain pour poursuivre.
Merci.
Merci, Père Gabriel.